carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Ce lundi, l'Iran fête le 40e anniversaire de la révolution islamique. Le 11 février 1979, l'ayatollah Khomeini et les religieux s'installaient au pouvoir 40 ans plus tard. Que sont devenues les promesses du père fondateur de la République islamique? Que reste-t-il de cette révolution qui a certes provoqué une rupture dans la vie des Iraniens, mais aussi transformé le monde musulman et les relations internationales durant près d'une heure? Nous allons répondre à vos questions, évidemment, sur les événements de 1979, mais aussi sur la situation politique économique d'aujourd'hui, le rôle de l'Iran dans les tensions régionales, ou encore le modèle de société iranien. Pour nous aider à décrypter cette révolution et ses conséquences, à mes côtés Thierry Coville, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste de l'Iran. Dans le courant de l'émission, nous appellerons Nicolas Falaise, l'envoyé spécial de RFI à Téhéran. Il sera certainement du côté de la place Azadi, dans le centre de la capitale, où les autorités ont prévu d'organiser un grand rassemblement. En tout cas, Thierry Coville, on ne peut pas dire que l'ambiance générale en ce 11 février 2019 soit festive. C'est un anniversaire tout de même sur fond de difficultés économiques, de nouvelles tensions avec les États-Unis. C'est un peu tendu.
Oui, l'Iran est dans une, pour répondre à votre question, une crise économique et sociale très grave, en grande partie liée au retour des sanctions américaines, avec une inflation, selon les derniers chiffres, qui atteint maintenant 35%, une monnaie qui s'est complètement effondrée, l'économie est en récession, le chômage augmente, donc oui, le climat économique n'est pas à la fête, effectivement. Ouais.
Alors, avant de passer au standard et d'accueillir beaucoup d'auditeurs, visiblement c'est un sujet qui interpelle, c'est un pays qui intéresse nos auditeurs, prenons tout de même quelques instants pour planter le décor. Nous sommes donc le 11 février 1979, la révolution islamique prend le pouvoir après plusieurs mois de grogne populaire généralisée, de manifestations à travers tout le pays. Expliquez-nous pourquoi les Iraniens s'étaient révoltés contre le régime en place.
Bon, ça remonte depuis longtemps, si vous voulez. Quelque part, c'est comme une colère longtemps contenue qui explose tout d'un coup. Donc je pense qu'il y a plusieurs motifs au mécontentement des Iraniens. D'abord, il y a l'absence de démocratie. Il faut quand même pas oublier qu'avant, c'était un système monarchique, c'était une répression sauvage. C'est-à-dire, vous étiez pris à lire un ouvrage de Marx, vous alliez en prison, torturé, etc. Donc, il y avait l'absence de démocratie, l'absence d'opposition, l'absence de liberté politique. Deuxième élément, je pense qu'il y avait la dépendance vis-à-vis des États-Unis, qui était vécue à l'époque. L'Iran était le gendarme des États-Unis dans le Golfe, donc il y avait l'idée que l'Iran est sous la tutelle des États-Unis qui lui disent quoi faire, etc.
On entendait des slogans anti-américains dans ces manifestations.
Des slogans plus forts, c'est Esterlol, ça veut dire indépendance. Donc il y a l'idée que voilà, on doit être nous-mêmes et n'obéir à personne. Donc ça, c'était très fort. Puis il y a un autre élément dont on va reparler, c'était mettre fin aux injustices sociales, mettre fin à la corruption, que tout le monde soit au même point, lutter pour les déshérités, etc.
Et en même temps, le Shah, qui était donc à la tête de l'Iran, avait pour objectif de faire de l'Iran un pays moderne à l'occidental. Ça ne passait pas, ce projet, auprès de l'opinion publique iranienne?
C'est toujours compliqué, vous savez, de faire comme ça un bilan. Bon,
oui,
ce qui est très clair, c'est que si on prend le père du Shah, son père Reza Rezaian et le Mohamed Reza Shah, ils ont fortement modernisé et fait beaucoup de choses positives, notamment le père du Shah. Les institutions, les universités, le système judiciaire laïque sous le modèle d'Atatürk, une économie en pleine expansion, l'arrivée d'un modèle de grande consommation avec l'accès à la consommation moderne occidentale d'une classe moyenne, la classe moyenne iranienne, des entrepreneurs. Donc on va dire le régime précédent a fait beaucoup de choses. Là, effectivement, ça devenait insupportable, c'était l'absence de liberté politique dont on vient de parler.
Après donc des mois de manifestation contre son régime, le Shah fuit l'Iran. Nous sommes le 16 janvier 1979. Son départ permet à l'ayatollah Khomeini de revenir à Téhéran après 15 ans d'exil. Il sera accueilli en libérateur.
Oui. L'intelligence politique de Roménie, c'est d'avoir utilisé tout le réseau des mosquées en Iran, etc. Donc, il a sorti plein de foules, des monsieur et madame tout le monde en Iran, qui ont commencé à manifester. Les femmes, notamment, qui ont pris accès à la rue, à la place publique, ont commencé pour la première fois à apparaître sur la scène politique. Donc, il va jouer là-dessus. Il est vraiment accueilli par une grande majorité des Iraniens, qui voient en lui le père, celui qui va nous permettre de mettre fin au système du Shah, etc.
Le 11 février 1979, l'ayatollah Khomeini prend le pouvoir, la République islamique est instaurée. On va passer au standard, Thierry Colléville. On a 45 minutes encore devant nous. On aura le temps de revenir sur certains points, bien évidemment. Bonjour Alpha.
Bonjour Wani, bonjour à tous les auditeurs de la Grande Radio.
Merci de nous appeler de Guinée. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Bien, Wani, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le 11 février marque le 40e anniversaire de l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini. Pourquoi cette révolution a-t-elle profité aux religieux et qu'espérait-il des religieux en prenant le pouvoir?
Ouais. C'est une bonne question. Pourquoi les religieux se sont emparés de la révolution au départ? Peut-être que je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que la révolution n'était pas islamique.
Mais en fait, c'est une très bonne question. C'est exactement le point que je voulais faire. Il faut dire l'opposition au système du Shah, à la monarchie du Shah, elle venait de tout le monde. En quelque part, on peut dire que c'est d'abord la gauche laïque, hein, d'opposition, le parti communiste, les moudjahidines, qui sont un mélange d'islam et de marxisme, un certain nombre de groupes, on va dire, de la gauche radicale, etc., les intellectuels, les nationalistes, qui commencent à manifester contre le Shah. Mais c'est là où ils s'allient avec les islamistes, donc Roménie, en pensant, et c'est là où ils font une énorme erreur, en pensant que bon, Roménie, il est utile pour faire la révolution, renverser le Shah, ensuite il reviendra à sa mosquée, et c'est nous qui allons gouverner le pays. Et c'est là où on voit effectivement qu'il y avait plusieurs tendances qui ont fait la révolution, et il y a une seule tendance qui a réussi à éliminer, mais c'était une guerre civile, hein, qui a éliminé progressivement toutes les autres tendances, c'est le parti des islamistes, avec à sa tête l'ayatollah Roménie.
Et une grande majorité des Iraniens soutenaient ce projet de république islamique. Il y a eu en mars 79, donc un mois après ce 11 février 79, un référendum, et une grande majorité votait ce jour-là pour l'établissement d'une république islamique.
Non, mais ce qu'il faut voir, c'est que dans une révolution, tout est sur la table. Donc, je veux dire, rappelons-nous les grandes révolutions, etc. Donc, ça partait dans tous les sens. Ce qui était assez extraordinaire au début, dont on a parlé, c'est qu'il y avait quelque part un climat de liberté que l'Iran n'avait jamais connu. Rappelez-vous quand même, tu sais, on passe d'un système où, si vous lisiez un bouquin de Marx, vous alliez en prison, tout d'un coup, on pouvait dire tout ce qu'on voulait. Donc, il y a eu une sorte d'effervescence. Bon, je pense que la République, la Constitution de la République islamique est votée. Les gens savent pas trop. Je pense que beaucoup de gens veulent avoir la liberté, la démocratie, mais petit à petit, effectivement, on l'a vu dans d'autres révolutions, cet enthousiasme révolutionnaire, cette volonté de changer les choses est quand même récupéré et guidé par les islamistes qui ont véritablement le projet d'une république islamique.
Ouais. Autre question au standard, au 339 693 693 70. Bonjour Blaise.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la radio du monde.
Vous êtes à Bamako et nous vous écoutons avec Thierry Coville.
Oui Juan, en accédant au pouvoir, l'ayatollah Roménie avait promis au peuple la justice sociale. Est-ce qu'un tel défi a pu être relevé?
Ah, justice sociale, répartition des richesses, c'est effectivement l'un des engagements de l'ayatollah Roménie.
Oui, là c'est encore une très bonne question parce que au début il utilise un mot très en persan, c'est les mostazafines, hein, c'est les déshérités. Donc on va faire un système politique et économique qui va, on va dire leur mettre du pain sur la table et s'occuper des déshérités. Bon, quand on regarde les chiffres, je pense quand même la République islamique d'Iran a fait beaucoup. Donc en gros, il y a une diminution de la pauvreté. Parce que il y avait un mouvement populiste une partie populiste dans le système, donc ils ont beaucoup investi en infrastructure, en éducation. Aujourd'hui, on a 5 à 6% de la population iranienne qui fait des études.
Si combien? 5 à 6?
5 à 6%, c'est énorme. Il y a l'Iran est le pays au monde qui produit le plus, entre guillemets, d'ingénieurs femmes. Donc il y a un accès à l'éducation supérieure massif, et on le voit hein, quand vous allez en Iran, dans les petites villes moyennes, etc. Maintenant il y a des véritables infrastructures, donc il y a plus ces écarts qu'on voyait avant la révolution. Je pense qu'en termes de diminution des inégalités, ça a sans doute diminué d'après les chiffres qu'on voit. Par contre, il y a quand même un problème, c'est qu'il y a quand même encore des inégalités. Donc, on est loin du projet de société religieuse parfaite qui avait été le projet révolutionnaire. Il y a des inégalités. Et donc, ce qui fait qu'il y a un véritable manque de confiance dans la population iranienne qui pense que le système travaille que pour quelques-uns.
Et la corruption est omniprésente. On se rappelle que l'ayatollah Khomeini avait promis d'éradiquer la corruption.
la corruption, elle est présente comme dans tous les pays émergents. Et c'est là aussi.
Pas plus qu'ailleurs.
Je pense qu'elle est, justement, là, je pense qu'elle existe comme ailleurs, comme dans beaucoup de pays. Je dis pas qu'elle est, elle est forte, hein, mais dans beaucoup de pays émergents. Mais là, on en revient. Je pense que la perception des gens, c'est que, elle est encore pire que ça. Donc, on voit vraiment, il y a un problème en Iran qui est profond de manque de confiance de la population dans les institutions.
Autre question, Emmanuel. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, Juan, bonjour à toute l'équipe de la RFI.
Vous nous appelez de l'Est de la République démocratique du Congo. On vous écoute.
Voilà, on entend souvent parler de l'ayatollah Khamenei et du président Rouhani. Quel rôle joue l'ayatollah dans le régime et quelle est la fonction exacte du président Rouhani?
Alors, effectivement, on a Ali Khamenei, donc le guide suprême d'Iran, et on a également un président, le président Rouhani. Le guide suprême, c'est la figure la plus importante du pays. C'est lui qui tire toutes les ficelles, oui, qui détient le vrai pouvoir.
Oui, oui, non, je veux dire, il n'y a pas une grande décision. Par exemple, l'accord sur le nucléaire iranien, dont on a beaucoup parlé, la décision finale, c'est le guide qui la prend. Donc les grandes décisions en termes de sécurité nationale, c'est lui qui nomme le ministre de la Justice, c'est lui qui nomme le directeur de la télévision, c'est lui qui nomme le chef des armées. Donc, on va dire le numéro un du système, la clé de voûte du système, c'est le guide qui représente, chose très importante en Iran, là, c'est le veillé à la tefaril, c'est la supériorité du religieux sur le politique. Donc, le numéro deux du système, mais qui a quand même du pouvoir, c'est le président de la République qui va le gérer le pays au jour le jour, si vous voulez.
Mais, et le président, c'est quoi? C'est juste un simple exécuteur d'ordre?
Je viens de vous rappeler, il gère toute la politique économique, sociale et même la politique étrangère. Mais je veux dire, les grandes orientations, par exemple, prendre la décision de l'accord sur le nucléaire iranien, c'est pas lui qui peut la prendre tout seul. Forcément, le guide doit donner son aval pour la grande direction du pays. Donc, on va dire, il y a un partage du pouvoir entre ces deux hommes. Et quelque part, il y a une rivalité. Il y a des tensions entre les deux. On le voit très bien.
Un mot tout de même. Ce n'était pas la question de notre auditeur, mais je vais un peu plus loin. Un mot sur Hassan Rouhani. Il a été réélu en 2017. Il est présenté dans les médias occidentaux comme un modéré. Ça veut dire quoi, Thierry Coville, être modéré dans un régime islamique répressif?
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que oui, c'est toujours difficile à comprendre. En Iran, si vous acceptez le principe de velayat-e faril, qui est la supériorité du religieux sur le politique, vous pouvez faire de la politique. Donc, à l'intérieur de ce cadre, vous allez me dire qu'il est limité, on a quand même différentes mouvances qui s'affrontent durement. On peut pas non plus dire qu'ils pensent la même chose. Donc on va dire, pour simplifier les choses, il y a des modérés en Iran qui prennent conscience de ces évolutions sociétales, qui veulent ouvrir politiquement, qui veulent mettre fin à la répression, qui veulent des relations plus normales avec les Occidentaux. Puis il y a des durs qui disent non, faut pas bouger, l'ordre moral islamique, ils sont pas très intéressés par la démocratie, les Américains c'est les grands méchants, etc. Donc il y a un véritable, à l'intérieur de ce cadre, on peut pas dire, il y a un véritable affrontement, mais dur, hein, entre ces deux factions.
Et le guide suprême est un dur ou un modéré, puisqu'il a fini par accepter quand même cet accord sur le nucléaire signé avec la communauté internationale?
C'est une bonne question. Globalement, on peut dire que c'est un dur, c'est pas le pire. Donc il fait un peu la synthèse de ce combat, si vous voulez.
Ouais. Claude nous appelle du Cameroun, à Douala, de Douala exactement. Bonjour Claude.
Bonjour Juan, bonjour à Thierry Coville, et bonjour également à tous vos collaborateurs.
Merci pour nous vous écoutons.
On sait qu'après la mort de l'ayatollah Khamenei, plusieurs polémiques ont eu lieu, notamment celui du charisme de l'actuel ayatollah Ali Ahmed. Et justement, je voulais savoir, qu'en est-il de son autorité? Est-il aussi puissant que son prédécesseur, l'ayatollah Khamenei?
Ah, est-ce que Ali Khamenei, donc le guide suprême actuel, a autant de charisme que l'ayatollah Khamenei, le père fondateur de la révolution? Thierry Coville.
La réponse est dans la question, non. Non, notamment, il faut savoir que l'ayatollah Khamenei est beaucoup contesté, notamment du fait de par les religieux même en Iran, qui lui-même contesté, je crois, la qualité de sa thèse, etc. Il faut une thèse pour devenir ayatollah. Donc, en termes de charisme, en termes de poids dans les religieux, il n'a absolument pas la figure qu'avait Khamenei. Par contre, je pense que c'est un très fin politique. On en revient à son rôle. Mm-hmm. C'est pas évident en Iran. Il a un rôle de synthèse, si vous voulez. Donc, il joue très bien. Il essaye de voir quel est à la fois l'intérêt du pays, aussi l'intérêt, on va dire, du système politique islamique, etc. Donc, je pense que c'est un très fin politique et il serait pas encore au pouvoir s'il l'était pas. Ouais.
On reste guide suprême jusqu'à la fin de sa vie.
Exactement.
C'est
oui,
bien
tout
ça.
À fait. Oui,
très bien.
Fait.
Et est-ce que la succession de Khamenei, il est encore relativement jeune, 79 ans, mais est-ce que sa succession est un sujet tabou? Est-ce qu'on en parle?
Non, mais c'est un... Si vous voulez, normalement, parce que c'est pas arrivé souvent.
C'est arrivé une seule fois.
Et c'était
à la mort de l'ayatollah Khamenei.
En 89, ils ont même pas respecté les procédures. Normalement, il y a l'assemblée des experts, hein, qui sont des gens élus, qui doivent voter le futur guide si jamais il disparaît. Quand même, normalement, un pouvoir de contrôle sur le guide qu'ils n'utilisent pas trop. Donc, c'est cette assemblée des experts qui désignera normalement le futur guide. Je pense qu'il faut, si vous voulez, ça représentera le rapport des forces politiques dont on a parlé tout à l'heure.
Dernière question avant de rendre l'antenne et de retrouver le service Afrique pour le journal, et on reviendra évidemment après. Adamou, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Nous vous écoutons.
Oui, merci. Il y a quelques semaines, un chanteur pop puni pour avoir laissé sa guitariste femme chanter. Une infraction selon les autorités iraniennes, qui souligne que les femmes n'ont pas le droit de chanter en Iran. Ma question est la suivante. Que pouvons-nous dire de l'évolution des droits des femmes dans la société iranienne?
Alors, une petite rectification. Les femmes ont le droit de chanter en Iran. Elles n'ont pas le droit, en revanche, de chanter en solo. C'est ce qui s'est passé il y a quelques jours. Notre auditeur faisait référence à ce chanteur pop très, très populaire, Hamid Askari, qui a donné le micro à un moment donné à sa guitariste, et sa guitariste femme, et elle a chanté en solo quelques minutes. La prestation a été saluée par le public. Que dire de l'évolution des droits des femmes aujourd'hui en Iran?
Alors, faut bien voir... Pour bien expliquer les choses, je pense que vous avez un système politique et juridique islamique. Par exemple, dans toute sa rigueur, qui va dire que une femme a deux fois moins de droits en termes d'héritage qu'un homme. Si vous voulez, donc tout ça, ça existe, ces lois existent, etc. D'un autre côté, vous avez une société civile dont on a parlé en pleine évolution. Avant, il y a 7 enfants moyens par femme en Iran. Maintenant, il y en a 2. L'âge moyen des femmes au mariage augmente. Vous avez à peu près 46% de filles dans les universités partout en Iran, à tous les postes. Chauffeur de taxi en Téhéran, vous avez des femmes. Chirurgien, le PDG d'Iran Air actuellement, la plus grande compagnie d'aviation, c'est une femme.
Oui. Mais donc, aucune femme au gouvernement.
Alors, si, il y a eu une première femme ministre, peut-être vous avez raison, mais il y a une femme ambassadeur maintenant, il y avait une femme ministre, soit Ahmadinejad, il n'y a jamais eu autant de femmes députées, donc on les voit petit à petit arriver au premier poste. Par contre, il y a une contradiction entre leur présence, on va dire, qu'il y a leur compétence, et un système juridique qui continue à les discriminer.
Ouais. C'est paradoxal tout de même, puisque les femmes ont été les premières victimes de la révolution islamique, alors qu'elles ont joué un rôle extrêmement important lors des manifestations qui ont permis la chute du Shah.
Oui, alors, si vous voulez, on en revient à ce qui s'est passé. Au début, les gens veulent la liberté, veulent plein de choses en même temps, et en fait, quand on posait la question à l'ayatollah Khomeini, est-ce que vous allez faire la démocratie, il répondait oui, puisqu'on n'écoutait pas, ce que ses alliés ne posaient pas, c'est à la mode islamique.
Donc, enfin, lui disait, j'ai retrouvé des propos à son retour d'exil, les femmes seront complètement libres dans leur éducation et dans tout ce qu'elles feront, tout comme les hommes.
À la mode islamique.
Alors ça, effectivement, il ne le précisait pas.
Il le mettait à la fin, si vous voulez. Mais pas non plus, on revient, je veux dire, il y a eu quand même un accès massif à l'éducation des femmes après, c'est la contradiction, à des femmes après la révolution. S'il y a 46% de filles à l'université, le système y est pour quelque chose. Donc si vous voulez, il y a une contradiction. Il y a à la fois ces lois qui certains pourraient dire que c'est d'un autre âge, si vous voulez. Hein. Je crois, par exemple, quand il y a encore la loi une femme commet un accident, on va payer pour la compensation deux fois moins qu'un homme. Il y a des lois comme ça qui sont d'un autre âge. Et d'un autre côté, si vous voulez, ce qui fait tourner l'économie, la société, on les voit à principaux postes, c'est les femmes. Donc, on en revient à cette contradiction qui existe, bon, qui est une réalité actuellement en Iran.
Des femmes qui refusent de plus en plus également de porter le voile. On a vu l'année dernière émerger sur les réseaux sociaux une campagne, notamment sur Facebook.
Oui, mais cette modernisation sociétale dont je vous parle, ces femmes qui font de plus en plus d'études, ben, très clairement, il y a, par exemple, l'individu naît de plus en plus en Iran. Avant, les personnes faisaient partie de la famille, faisaient partie d'un groupe. Maintenant, c'est l'individu, avec sa compétence, avec ses qualités qui existent, ben, revendique de plus en plus de choses. Donc, c'est tout à fait cohérent. Donc, on a des vrais mouvements féministes en Iran, des gens qui luttent. Alors, ce qui est un petit peu compliqué en Iran, c'est que les gens luttent, mais ils veulent pas non plus le chaos. Donc, ils veulent lutter à travers le système. Donc, ils préfèrent lutter en allant voter. Préfèrent lutter en créant des associations, en manifestant pacifiquement, mais ils veulent pas le chaos.
On poursuit cette émission spéciale dans 10 minutes. Continuez évidemment à nous appeler 33 9 693 693 70. Toutes les questions que vous vous posez sur l'Iran, profitez-en. Thierry Coville, spécialiste de l'Iran, est à mes côtés ce matin. 33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.